Vous savez très bien que la loi El Khomri, les décrets ne seront pas applicables. Écoutez, moi, on est très loin de ce syndicalisme, de ce parisianisme qui ne nous concerne pas.
Cet après-midi, nous accueillons 12 personnes soudanaises. Le ministère nous demande d'accueillir en urgence ces personnes-là. Donc, au 21 octobre, on sera complet.
Le 23 juillet, on a ajouté la Champagne-Ardenne parce qu'on ne savait pas quoi en faire. C'est comme ça qu'on a conçu cette région.
En plus, on la juxtaposition et un empilement de petits matins. La nuit debout, c'est vraiment ça qu'elle peut permettre.
Au programme de ce quatrième épisode d'Une semaine en France, face aux attentats, la riposte citoyenne. En réponse à la terreur que Daesh veut imposer, la société civile se questionne, s'implique, s'engage. Groupe de parole, éducation populaire, observatoire de la fraternité, une véritable guerre pacifique est déclarée et ça fait du bien à entendre. En deuxième partie, on prend un peu de champ, petite histoire des trains de nuit dont l'État se désengage massivement, les lignes viennent d'être ouvertes à la concurrence. On en parlera avec le Ferrovipat, ainsi nomme-t-on les passionnés de train, Aurélien Prévost. En fin d'émission, la chronique de la République proposée par l'essayiste Laurent Kupferman. Bienvenue à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On a tendance à l'oublier dans la psychose ambiante et les discours sécuritaires, la société française est pleine de ressources. Face aux attentats, après la sidération, vient le temps des réponses. Des réponses citoyennes qui ne se résument pas à un hashtag, un mot-clé sur Facebook ou Twitter pour encourager à la riposte par la fête ou par l'humour, mais qui consiste, chacun à son échelle et avec ses moyens, à agir. Partout en France sont nés après les attentats de Charlie puis du 13 novembre des initiatives en tout genre, certains de s'engager dans la réserve, celle de l'éducation nationale, d'autres encore de rejoindre des associations de terrain, qu'elles soient solidaires ou sportives, d'autres enfin en organisant des rencontres, des échanges, des débats, en recréant du lien, tout simplement. Comme si, rêvons un peu, comme si on pouvait repartir à zéro. Nos invités y croient peut-être. Bonjour à vous, Hamza El Khostiti.
Bonjour.
Vous êtes militant associatif à Roubaix et cofondateur d'un groupe de parole après les attentats de Charlie Hebdo. Repartir à zéro, c'est naïf comme injonction ou vous y croyez quand vous êtes avec les Roubaisiens ?
C'est pas naïf, mais quand un ordinateur, des fois, bug, on demande si on doit faire une mise à jour. Et quelque part, s'asseoir autour d'une table, éteindre les chaînes continues, discuter, reprendre la base, parler à son voisin, c'était ce qu'on a essayé de faire avec le groupe de parole dans la coopérative Baraka.
Voilà, s'asseoir autour d'une table, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui avec Gilles Leproust. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'association Ville et Banlieue et maire communiste Front de Gauche d'Allonne, en banlieue du Mans. À vous aussi, je vous pose la question, repartir à zéro.
Repartir à zéro, je crois que on repart jamais à zéro parce que le passé il existe. Peut-être qu'il faut d'ailleurs réfléchir sur ce passé pour mieux envisager l'avenir. Et ça passe effectivement par des moments de dialogue, de débat, de contradictions, parce que je crois qu'il faut pas nier les contradictions qui nous permettent ensemble de trouver des réponses qui relèvent le défi.
Alors nous aurons tout à l'heure en ligne Anne-Marie Fauvet, qui est présidente du Comité national de liaison des associations de prévention spécialisées. Ce sont les éducateurs de rue. Et en fin d'émission, Sarah Roubato, auteur d'une lettre que vous avez peut-être lue, publiée sur Mediapart après les attentats du 13 novembre. « Lettre à ma génération, moi je n'irai pas qu'en terrasse », disait-elle. Alors Gilles Leproust, Hamza El Khostiti, dans le journal de Sophie Delpont, il était question des rassemblements un peu partout en France, aujourd'hui en mémoire du prêtre Jacques Hamel assassiné à Saint-Étienne-de-Rouvray. Est-ce que à Roubaix ou chez vous, à Allonne, il y a eu des rassemblements ? Gilles Leproust.
Oui, puisque hier soir, il y a eu un rassemblement, une marche blanche, y compris à l'initiative de jeunes filles d'Allonne. Plus de 150 personnes se sont retrouvées sur l'esplanade Mandela, tout un symbole déjà, devant la mairie d'Allonne, et qui a été vers la place de la paix. Là aussi, un autre symbole, parce que je pense que pour préparer des lendemains qui chantent un peu plus que ceux actuels, il y a besoin d'être des acteurs de la paix.
Vous avez dit à l'initiative de deux jeunes filles, qui étaient en l'occurrence ? qui étaient ces deux jeunes filles.
Ah oui, c'est Inde et Marlène, deux jeunes filles qui devant ce qui s'est passé, ont considéré qu'il y avait besoin de se rencontrer, de parler. Et dans cette marche blanche, il y avait beaucoup d'habitants dans la diversité, mais il y avait aussi les représentants des trois cultes qui sont sur Alonne. Il y avait les deux prêtres, un imam, le représentant de la religion juive. Voilà, donc c'est des moments importants. Il y avait beaucoup d'émotions, puisque cette marche, y compris, s'est terminée par une chaîne de solidarité autour de l'église pour dire, voilà, on est tous ce soir avec nos amis prêtres, comme on était hier avec nos amis musulmans, demain avec nos amis juifs, et puis avec celles et ceux qui croient pas, parce que je crois que ceux qui croient pas, on a un vrai travail à faire ensemble.
Donc un rassemblement interconvictionnel, on va dire. Hamza El Kostiti, est-ce qu'à Roubaix, hier, vous avez vu également des gens se rassembler, se réunir ?
Alors, pas comme à Alonne, mais il y a eu des gens qui ont décidé de se retrouver. Il y a eu un certain nombre de messes qui ont été organisées. Et puis le centre islamique de Villeneuve-d'Ascq a organisé une rencontre interconfessionnelle où il y avait énormément de monde. Vendredi, ça a été un moment solennel. Et c'est un moment très très fort. Pour ceux qui pensent que c'est une banalité d'entendre les responsables religieux dire qu'il faut la paix, l'amour et la fraternité, il faut rappeler que historiquement, ça n'a pas toujours été vrai. Les responsables religieux n'ont pas toujours fait un appel qui aujourd'hui peut paraître banal et qui est quelque part un peu à l'opposé du bavardage politique et de la classe politique qui passe son temps à se déchirer, alors qu'on n'a pas besoin de ça actuellement.
Est-ce que vous avez pris du temps à ce moment-là pour discuter avec les personnes que vous côtoyez, vous dans votre groupe de parole à Roubaix ou vous avec vos administrés, et essayer de sentir si depuis les attentats de Nice ou l'assassinat de ce prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, la perception de ces personnes avait été, la perception des événements avait été mise à l'épreuve, modifiée par ces nouveaux attentats.
Ce qui est spectaculaire, c'est qu'en plus de la sidération, les gens ont une capacité à encaisser qui est assez spectaculaire, parce qu'il y a eu Charlie, il y a eu le 13 novembre, et quelque part, il y a une forme de résilience qui s'opère déjà, qui se voit. Donc les gens sont sidérés, choqués, mais il y a cette force humaine, cette force culturelle qui fait que finalement les gens gardent raison, les gens appellent au calme. Et je trouve que le peuple français, que la France réagit plutôt bien, malgré toutes les choses qui sont dites et toutes les choses qui ne vont pas bien, je trouve qu'il y a, il y a quand même une forme de dignité dans ce que les gens disent et dans la façon de se comporter. Or, certaines parties de la classe politique qui continuent un peu le bavardage et le populisme.
Gilles Le Proust, juste après l'attentat de Nice, est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec vos administrés à Alonne ?
Oui, parce que c'est, je dirais, dans le rôle d'un élu, d'un maire d'une commune, qu'elle soit petite ou grande.
C'est le rôle sur le papier, encore faut-il le faire.
Oui, certainement, mais je crois quand même, c'est vrai qu'il y a la crise de la politique, mais je crois quand même que les élus qui sont le plus en lien avec les habitants restent encore les élus, le maire en particulier. Je partage ce qui est dit sur les réactions. Il y a eu de la riposte, de la volonté du faire du vivre ensemble, mais je crois quand même qu'il faut, il y a ça, mais à côté il y a quand même des gens qui mettent plutôt en avant les différences, stigmatisent tel ou tel, et je crois que là il y a un vrai défi à relever ensemble pour faire montrer que c'est ce qu'on essaie de faire de ville comme Alonne, mais c'est aussi un des objectifs de l'association Ville et Banlieue, c'est que nos différences sont un enrichissement permanent et qu'il faut travailler, développer dans nos territoires. Et de ce point de vue-là, je trouve que les interventions du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Hubert Vulfron, étaient assez remarquables, dignes. Je crois que c'est vraiment à réécouter, parce que je pense que c'est un chemin qu'il faut vraiment développer, emprunter, dans quels que soient les territoires de notre beau pays.
Alors, tout ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'on l'a beaucoup répété sur notre chaîne, sur France Culture, on l'a beaucoup entendu. Reste à savoir ce qui se dit sur le terrain, dans les villes, dans les groupes de parole comme celui que vous avez mis en place, Hamza El Kostiti. Racontez-nous déjà comment vous est venue cette envie de monter un groupe de parole. Vous étiez plusieurs à le faire et c'était après les attentats de Charlie Hebdo.
Tout à fait. Donc Roubaix, moi je viens d'une petite ville qui s'appelle Alluin et donc j'ai été nourri
dans
au biberon.
Nord.
Voilà, j'ai été nourri au biberon, l'éducation populaire, de la JOC, des anciens de la jeunesse ouvrière chrétienne, du réseau aussi de l'extrême gauche, tout ce qui était Franca, les réseaux d'éducation populaire, les centres sociaux. Et donc Roubaix, c'est un laboratoire extraordinaire de l'éducation populaire. Il y a une coopérative qui s'appelle Baraka, qui fait un super travail qui consiste à fabriquer du bien commun. Donc, après les attentats de Charlie, nous sommes plusieurs à avoir eu cette envie de parler. Donc, mon ami Pierre, mon ami Jérôme, qui est diacre, Anne-Sophie, Monsef, Ali et d'autres. Et donc, on s'est réunis dans cette fabrique de biens communs, qui est une coopérative, pour reprendre les bases, discuter calmement. Et on a fait l'inverse de ce que la société, elle, nous propose. La société, elle veut qu'on aille vite. On a pris notre temps. La société, elle veut formaliser les lieux de rencontre. On n'a pas voulu formaliser. La société, elle prône le numérique. On a voulu une rencontre simple, humaine, pour discuter calmement. Et les gens sont venus. On a invité ceux qui voulaient venir pouvaient venir, et les gens sont venus parler simplement, et on a dit sans filtre, parce qu'effectivement le pays vit un moment de tension et de fébrilité, et les gens avaient besoin de venir pour exorciser leur peur.
Quand vous dites les gens, est-ce que ce sont ceux que l'on voit habituellement dans les réseaux associatifs? Qui étaient ceux qui sont venus? Est-ce que ce sont toujours les mêmes, entre guillemets?
Alors oui, forcément la société civile, elle est faite de leaders, et on voit souvent les mêmes personnes dans la vie sociale, mais en même temps, il y a des habitants, il y a des coopérateurs de cette coopérative qui sont venus simplement, sans étiquette de responsable religieux ou associatif, de laïcs, d'élus. Les gens sont venus parler calmement, simplement, et il y avait vraiment une diversité dans les profils, qui a l'image de Roubaix, qui a l'image de la France.
Et qu'est-ce qui s'est dit alors dans ces groupes de parole? Évidemment, on ne peut pas résumer là comme ça en deux minutes tout ce qui s'est dit au fil des mois, parce que vous réunissiez tous les mois dans ce restaurant associatif.
Et donc face aux chaînes d'infos continues qui veulent faire de l'info en continu, ce qui est techniquement est pas possible normalement, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire du remplissage, l'idée c'était de faire quelque chose de durable. Et donc ça continue maintenant encore. Donc Mathieu dessinait des planches, les gens venaient apporter une sorte d'auberge espagnole. Les gens sont venus exprimer leur peur. La peur, c'est humain. Parce que tirer sur des journalistes à la Kalachnikov, c'est quelque chose de violent, d'innommable, de terrible. Et donc les gens ont eu ce besoin pour venir dire « voilà, j'ai pleuré, j'ai eu peur, je me sens pas bien ». Et après, la France a continué à être traumatisée, parce que j'ai parlé de dignité tout à l'heure, mais en même temps, il y a de la fébrilité. Les gens sont venus exprimer leur peur, et les gens avaient besoin de déconstruire cette actualité qui devenait insupportable.
Alors, vous êtes venu, je crois, avec quelques-uns des courts textes qui vous ont marqué, vous, en tout cas.
Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre démarche collective, parce que Baraka, c'est ça l'idée de Baraka, c'est une coopérative qui propose la contribution de chacun. Je voulais vous lire quelques lignes écrites par Jérôme, qui est mon ami, qui est diacre, qui est un homme d'église, qui fait un boulot exceptionnel, et je le salue, lui et tout le diocèse de Lille. Il a écrit « Je suis ». J'étais déjà bouleversé par les troubles au Moyen-Orient, Daesh et le radicalisme, la fragmentation et le délitement du lien social, le désenchantement du monde et la culture du déchet. Comme une litanie de signaux inquiétants annonçant une forme d'apocalypse, le contexte international et sociétal défilait à la manière d'une chat roulette. C'est, vous savez, un chat où il est possible de zapper d'une personne à une autre. Je suis, comme tout à chacun, l'héritier d'une culture avec ses grandeurs et ses décadences. Je suis le dépositaire d'une histoire personnelle et collective avec ses blessures connues ou refoulées. Je suis convaincu que ces drames comportent en eux-mêmes l'opportunité de travailler avec une purification mémorielle. Pour renaître à l'espérance, suis-je prêt à entrer en lutte pacifique? Sommes-nous ensemble? Je suis Jérôme. Voilà, c'est simple, c'est dépolitisé, en même temps c'est fort. Et ceux qui disent que la parole c'est du blabla, ce que je leur réponds, c'est que Foucault a écrit sur la parole elle est agissante. Si des gens ont poignardé un prêtre dans une église, si des gens ont tiré à la Kalachnikov, c'est qu'en amont, quelqu'un a tenu un discours et que ce discours a eu un effet de mobilisation dans une dérive sectaire. Donc cette parole-là, elle est lourde et elle permet un peu de soigner ce qui fait société, ce qui fait la France.
L'importance de la parole, encore faut-il pouvoir s'exprimer. Gilles Leproust, après les attentats de novembre, on a vu se monter des collectifs, des opérations voisins unis, tout simplement un observatoire de la fraternité en Seine-Saint-Denis, avec toujours cet objectif d'interpeller les habitants, les inciter à se réunir, assister à des conférences, débats, etc. À l'échelon des communes, quels sont encore les espaces de rencontres, d'échanges, hors municipalité, j'entends? Qu'est-ce que vous, à quoi vous assistez, vous, dans ces villes qui font le collectif Ville et Banlieue?
La caractéristique de nos communes, c'est la richesse de la vie associative. Et ces associations jouent un rôle irremplaçable, parce que chaque jour, que ce soit pour la culture, le sport, caritatif, le loisir, des hommes et des femmes se retrouvent et bien sûr discutent de ce qui se passe. Et le fait déjà, et je partage complètement moi, de permettre l'expression, c'est vraiment le meilleur moyen de combattre les peurs. Parce que pour répondre à la question que vous posiez précédemment, moi ce que j'ai ressenti beaucoup chez des habitants d'Allonne, et puis pour en avoir discuté avec mes collègues maires de l'association, la peur quand même est forte. Les inquiétudes.
Mais de quelles associations parlez-vous ? Est-ce que ce sont les associations de parents d'élèves ? Qui sont celles qui sont encore, en tout cas, vivantes à Allonne ?
Ah, sur une ville comme Allonne, mais il y a bien sûr les associations de parents d'élèves, il y a les associations sportives, on a les associations culturelles, caritatives, comme je le disais précédemment. Non, on a une centaine d'associations, vous voyez, donc...
J'ai quand même cru comprendre que dans des villes comme la vôtre, 11 400 habitants, c'est ça
oui.
Dans en tout cas de nombreuses villes comme les vôtres, les associations sont en train, non pas de mourir à petit feu, mais en tout cas, les effectifs se réduisent, les gens ne s'engagent plus. Est-ce que vous, c'est le cas, j'ai cru comprendre, en tout cas, qu'au niveau des parents d'élèves, c'était compliqué.
Oui, c'est vrai qu'on n'a plus, effectivement, d'associations, je pense à la FCPE notamment, qui existent, mais il y a des conseils locaux de parents d'élèves. Et donc, c'est des formes nouvelles qu'il faut y compris accompagner, aider. Mais quand même, ce qui traduit dans nos villes, c'est qu'il y a des centaines d'hommes et de femmes qui apportent du temps aux associations, et donc c'est un terreau de discussion, d'échange, et là je crois qu'il y a besoin effectivement, y compris d'avoir ce partenariat, ces échanges entre ces associations, je n'oublierai pas non plus les centres sociaux ou les MJC, parce que c'est des éléments très importants en termes d'éducation populaire, mais également les collectivités qui peuvent ensemble créer des conditions, des lieux de discussion, d'échange, y compris mettre de l'ambition dans ce qui est fait.
Alors on reproche souvent aux élus de se désintéresser assez vite des projets quand ils ne viennent pas d'eux.
C'est parfois vrai, hein. Faut être lucide, parce que la crise de la politique, elle part bien de quelque part. Mais je pense quand même qu'il y a, chez beaucoup d'élus, notamment dans les villes populaires, les villes de banlieue, comme on dit, ce travail permanent en commun pour accompagner les projets. Parce que, je dis souvent comme maire aux associations, le droit à l'erreur, elle existe. Le pire, c'est de pas tenter. Devant une situation tellement difficile, déstructurée, il faut oser, y compris oser avec de l'ambition, ensemble faire le bilan, et puis à partir de là, aller de l'avant pour redonner de la confiance aux habitants. Parce que je crois que c'est vraiment un élément qui est important. Ces peurs conduisent souvent à perdre la confiance en soi, y compris à perdre la confiance dans le collectif. Et donc, il y a ce travail permanent à produire pour permettre justement de relever ces défis.
Amzel Kostiti, dans la ville où vous avez grandi, dans le Nord, ou aujourd'hui à Roubaix, où vous êtes souvent en tant qu'adulte, est-ce que ce lien qu'il y a entre les administrés et les élus, est-ce que vous sentez qu'il est encore vivant ? Est-ce qu'on vous en parle ? Est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous voyiez le maire passer dans la rue, vous pouviez l'interpeller et lui parler de vous ?
Oui, quand j'étais petit, le maire exceptionnel était disponible encore dans le Beautin et il était possible de le rencontrer. Aujourd'hui, la plupart des élus sont des gens sincères et engagés. Maintenant, on vit une crise démocratique. Donc, on a l'impression que quand l'élu a son mandat, tout ce qui est interstice du mandat est crise du pouvoir et crise de rapport de force. Mais je crois que, comme le dit Michel Kokoreff, faut pas avoir peur du conflit. Un conflit démocratique local, pacifique, où il y a du débat. C'est ce qu'essaye de faire la table de quartier. À Roubaix, il y a une table de quartier qui est animée par Anne Lessieux et l'association Énergie. Ils essayent d'organiser, et je vous rejoins, il faut faire du collectif. Aujourd'hui, le lien social, il est tellement fragmenté que... Donc, il y a la maison individuelle, l'appartement individuel, la voiture individuelle, le PC, personal computer, le jardin individuel. Je crois qu'il faut casser ces codes, il faut refaire du collectif, le jardin partagé, l'économie sociale et solidaire, la table de quartier où les gens peuvent faire société, faire ensemble pour créer un rapport de force, pas pour mettre en danger en permanence les élus, mais pour créer un rapport de force pour qu'il puisse y avoir un lieu de médiation.
Mais dans ces quartiers-là, Amzel Kostiti, je ne vais pas dire les quartiers, ça ne veut rien dire, dans ces villes-là, je repense à 83, la marche pour l'égalité. Les associations, les syndicats, ils étaient derrière les marcheurs, les manifestants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de ce tissu associatif-là, notamment chez vous ?
Bah écoutez, d'abord il y a une trahison depuis 83. Faut être honnête. Et là je le dis sans démagogie, mais il y a une partie de la classe politique qui a trahi le tissu associatif et le tissu syndical. Et il y a aussi, je crois, une crise générationnelle, une crise de l'engagement. S'engager, c'est quoi ? C'est se sentir convoqué à agir. Aujourd'hui, C'est quoi agir? Mettre un commentaire sur un mur Facebook, ça suffit plus. Aller sur une terrasse, je rejoins à la lettre, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut vraiment refaire du collectif. Et ces réseaux, j'ai parlé de la JOC tout à l'heure, des réseaux de l'extrême gauche aussi, ce sont des réseaux aussi qui ont été... ce maillage n'existe plus comme avant. Et aujourd'hui, donc, dans les quartiers, s'il y a eu des dérives sectaires et il y a eu la radicalisation, c'est aussi parce que dans les quartiers populaires et parfois les campagnes, parce que je fais un parallèle, hein, il y a eu cette absence de maillage qu'il y avait dans les années 80 qui ont formé des gens comme moi. Et aujourd'hui, je me dis, le jeune qui a grandi dans un espace dans lequel le lien social est fragmenté, dans lequel il y a de l'isolement, qu'est-ce qu'on lui propose comme alternative et comme espoir?
Gilles Le Proust.
Je partage complètement, parce que Balière faisait référence à 83. Nos territoires, nos villes populaires, ce qui les caractérise notamment, c'est le niveau des inégalités sociales et territoriales. La situation a continué à se dégrader en termes d'accès à l'emploi, à la santé. Je suis né dans un quartier populaire du Mans. J'étais à la MJC du quartier, j'ai fait du sport dans le quartier. Ensuite, j'ai eu un engagement à la jeunesse communiste. Vous faisiez référence à la JOC. J'étais responsable syndical. J'ai aussi bénéficié du comité d'entreprise. Tous ces éléments faisaient d'éducation populaire. Et aujourd'hui, le constat, c'est quand même, ça a beaucoup baissé. Parce que les comités d'entreprise ont moins de moyens et moins de grandes entreprises. Donc le départ en colo, par exemple, est un élément important de socialisation, de rencontre avec les autres, de découvrir d'autres. Et donc je crois que là, il y a un vrai travail à reprendre. Pour moi, c'est ça être de gauche aujourd'hui, d'ailleurs, c'est de reprendre ce travail d'éducation populaire, de libérer la parole, de redonner de la confiance et de l'ambition.
Alors vous qui êtes de gauche, comme vous le dites, et qui êtes communiste, Gilles Le Proust, est-ce que vous avez appris à vos administrés à manifester quand quelque chose ne va pas, pour exprimer une colère, pour être mieux entendu?
Alors, faut être modeste, hein. Les gens sont capables d'apprendre tout seuls. Je pense que quand on est élu, on est surtout là pour aider. Mais
il faut alors à encourager, alors.
Alors, encourager, amplifier. Effectivement, on est une ville, par exemple, où on a repris il y a encore quelques mois des arrêtés contre les expulsions locatives, contre les coupures d'énergie. Effectivement, c'est...
Et là, vous êtes allé voir les gens, les habitants, vous avez dit, venez dehors et on va se faire entendre.
Tout à fait, on est passé, y compris, on a aussi travaillé avec les associations de défense des locataires ou des consommateurs. Et là, par exemple, la préfète nous a déféré au tribunal administratif, et eh bien nous irons au tribunal administratif à Nantes avec un bus, avec des habitants de la ville pour faire entendre la voix de l'accès aux droits. Parce que là aussi, le fait de diminuer l'accès aux droits divers crée un terrain fertile à tous les apprentis sorciers.
Amzel Kostiti.
Justement, la table de quartier à Roubaix, l'Université populaire citoyenne et la coopérative Baraka proposent aux gens l'empowerment, ce que les Québécois appellent...
L'empowerment.
Ouais, ce que les Québécois appellent... j'ai pas l'accent comme vous.
Non, c'était pas pour
non,
vous reprendre.
Pas de problème. Mais vous l'avez effectivement bien dit, les Québécois appellent ça la capacitation. Donc comment est-ce que les gens refont du collectif, montent en qualification pour justement... Créer un rapport de force, encore une fois, pas pour enlever la légitimité d'un élu. Les élus ont leur légitimité, et je l'ai dit, la plupart des élus, comme monsieur le maire et d'autres adjoints, font le travail sur le terrain, monter en qualification pour porter un discours, critiquer et essayer de coopérer ensemble sur des territoires.
On parlait des associations. Est-ce que à Roubaix, les associations cultuelles ou culturelles liées aux mosquées notamment, puisqu'on parle d'elles quand même beaucoup en ce moment, jouent ce rôle de relais?
Oui, alors à Roubaix, effectivement, il y a plusieurs mosquées. Elles jouent le jeu du relais avec des désaccords, que ce soit des désaccords idéologiques ou des désaccords sur la façon de faire. Mais il y a encore du côté du réseau des mosquées, je connais parce que ça fait plus de 20 ans que je fréquente un peu ce réseau-là, il y a encore un peu la difficulté parfois à assumer une parole publique ou à manifester. Parce qu'il y a dans la génération des parents une gêne, une honte parfois de devoir assurer une actualité pour laquelle tout le monde ne prend pas forcément sa responsabilité. Et puis après, il faut, en France, il y a une culture de la manifestation et elle doit encore être diffusée auprès de toutes les franges de la population. Mais oui, il y a un vrai travail. Il y a une association qui s'appelle Roubaix Espérance qui essaye de faire du dialogue interreligieux et qui essaye d'être interlocuteur par rapport à la mairie, par rapport aux associations. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas rose, il y a des velléités, il y a des contradictions, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais quand même on voit que les gens essayent de faire société autour d'un message pacifique et de fraternité. La fraternité, il ne nous reste plus que ça.
D'ailleurs, on n'a pas dit deux mots du contexte, mais vous avez à Roubaix, comme on dit, des fiches S, la préfecture en a recensé.
Oui, alors vous voulez un cocktail explosif, vous faites précarité, pauvreté, ghettoisation, inégalité sociale, inégalité de santé. Après, vous avez un terreau qui est propice à la radicalisation. Et donc, c'est un peu ce qui se passe à Roubaix, comme dans d'autres territoires. Faut pas stigmatiser Roubaix uniquement par rapport à ça, parce que c'est un territoire très riche. Mais oui, dans le nord de la France, on est une des régions dans laquelle il y a, hélas, le plus de jeunes qui sont partis s'embrigader dans la radicalisation.
Gilles Le Proust, à Alonne, est-ce que vous, en tant que maire, vous êtes en contact avec la préfecture? On vous informe de tout ça?
On nous informe peu. On a eu, par exemple, en novembre, des perquisitions par rapport à des gens signalés S. Ça fait un peu la bronca, parce que c'était un peu... On ne sait pas d'où ils sont sortis des noms du chapeau, mais surtout, c'est qu'aucune information depuis. Et ça montre du doigt des familles, des enfants, d'une manière assez inacceptable, quoi. Donc moi, je trouve que là, effectivement, il y a à travailler autrement. La radicalisation, il faut la combattre, il faut y travailler. Dans le même temps, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on déstructure, on déstabilise des familles, on déstabilise des acteurs associatifs, on déstabilise y compris des territoires entiers. Donc je crois que... Là encore, appel à l'intelligence. Et il y a une notion qui a été donnée tout à l'heure, moi je partage complètement, faut aussi donner du temps au temps. Je trouve que toujours vouloir régler tout dans l'urgence, c'est la pire des choses. Ça ne facilite pas le débat et l'échange.
Travailler autrement au sujet de ces jeunes-là, eux prétendent avoir une connaissance émotionnelle et intime des quartiers et de ceux qui y vivent, ce sont les éducateurs de rue. Bonjour Anne-Marie Fauvet.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Comité national des acteurs de la prévention spécialisée. Alors, on parlait, Anne-Marie Fauvet, des vocations suscitées par les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre, vocations dans les associations, dans la police parfois, dans l'armée, vocations de réservistes. Mais d'éducateurs de rue, y en a-t-il eu depuis les attentats de Charlie Hebdo ?
Alors, on n'a pas encore... il est trop tôt, en fait. On n'a pas le recul, puisque pour être éducateur, il faut faire des études. Donc, il y a un effet retard et on verra ça dans 3 ans. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit des jeunes qui nous sollicitent pour s'engager auprès de nous, notamment dans le cadre des contrats civiques. Voilà. Donc, et que peut-être ces jeunes-là, ça va susciter certaines vocations et qui deviendront éducateurs spécialisés. Mais nous, ce qui est important pour nous, vraiment la priorité, c'est vraiment d'avoir des professionnels formés qui interviennent sur ces quartiers.
Je crois, Anne-Marie Fauvet, que vous avez des éducateurs de rue à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Oui.
Ils connaissaient Adèle Kermiche, l'un des deux.
Oui, alors ce qui est extrêmement difficile à vivre pour des professionnels, puisqu'ils l'ont connu. Alors ils n'étaient plus en contact avec lui depuis quelque temps, mais il l'avait accompagné étant plus jeune. Et quand on a échangé donc hier ensemble avec la directrice, ce qu'elle me disait, et je rejoins bien ce que disait à l'instant vos invités, c'est le besoin qu'ont les populations d'échanger, parce qu'effectivement, tout le monde est atterré par des actes d'une telle barbarie. Et il y a le besoin de la parole. Je reprends ce que vous disiez tous à l'instant. Il y a besoin de la parole, il y a besoin d'écouter, d'échanger pour prendre un peu de recul et puis pour sortir des peurs et du côté émotionnel et puis d'arriver justement à élaborer quelque chose pour ensuite pouvoir passer à l'action. Mais passer à l'action dans quelque chose de... non pas dans la séparation. Je pense que le risque aujourd'hui, c'est vraiment que les populations se divisent et je crois que là, il y a une vraie responsabilité à avoir les uns les autres. Mais vraiment, comment on reprend ensemble, on aide à décrypter et comment on fait un travail de réassurance collective. Et tous les éducateurs de rue, on n'est jamais que 3500 éducateurs de rue sur l'ensemble du territoire national, ce qui ne va pas chercher non plus extrêmement loin, mais en tous les cas, il y a vraiment ce travail-là qui a été fait par les éducateurs après l'ensemble des attentats que notre pays a vécu. Et puis aussi le lien, on a un travail vraiment de médiation avec les élus locaux, justement pour leur expliquer comment vivent les populations, comment elles vivent ces événements et quelles réponses adéquates on peut leur apporter. Ça, c'est vraiment essentiel.
Qui sont vos autres alliés sur le terrain, ou du moins vos interlocuteurs ?
Alors, on a nos interlocuteurs, on va dire, traditionnels de longue date. Alors, bien évidemment, les centres sociaux, l'éducation nationale, la police, et probablement que dans les événements qui nous occupent, parce que voyez-vous, les éducateurs de rue, ça fait bien longtemps qu'on est engagés sur les quartiers, et ça fait bien longtemps qu'on lutte contre des organisations criminelles. On a simplement juste à faire référence à tout ce qui est trafic de drogue. Là, par contre, face au terrorisme, on voit bien que ça touche la sécurité nationale, et que dans ce sens-là, on est tous bien conscients qu'il faut faut qu'on établisse un partenariat un peu plus construit avec les forces de police. C'est vraiment de notre responsabilité. Et là, effectivement, on voit que ça, c'est en train de changer nos pratiques.
Face au terrorisme, comme vous dites, est-ce que vous sentez que ces éducateurs de rue avec lesquels vous travaillez ont changé leur approche des choses, leur l'engagement n'en a pris que plus de valeur peut-être pour eux? Est-ce qu'ils vous en parlent?
Alors, on peut pas être éducateur de rue, je pense, que si on n'a pas un minimum d'engagement. Donc l'engagement, il a toujours été là. Par contre, probablement, et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte tous les uns les autres, y compris moi, on est beaucoup plus offensif. On est beaucoup plus offensif parce qu'on sent bien qu'il y a vraiment un besoin de prendre du recul et, comme le disait votre invité, de pas partir tout azimut dans des réactions un peu primaires et émotionnelles. Et puis il y a aussi à se réinterroger sur qu'est-ce qui est en train de se passer pour pouvoir apporter la réponse la plus adéquate possible. Et du coup, nous, on voit bien que dans nos pratiques, ça fait évoluer les choses.
D'ailleurs, peut-être un dernier mot, c'est qu'est-ce qui fait que ces jeunes, vous accorderont leur confiance plutôt qu'à quelqu'un qui leur promettrait de devenir des héros s'ils partaient en Syrie?
Alors, parce que déjà, ils nous connaissent depuis longtemps, et puis parce qu'on est vraiment, on a vraiment du lien entre nous. Alors après, il faut pas non plus être complètement utopiste. Et ça n'a, pour certains, ça ne les empêchera pas de partir. Mais n'empêche qu'on a encore ce lien qui est essentiel et qui fera qu'on pourra encore s'adresser à eux et on pourra encore un petit peu en appeler à leur esprit critique et se remettre en dialogue, voyez, pour maintenir absolument ce lien qui est essentiel, en fait.
Merci Anne-Marie Fauvet. Vous restez avec nous pour la suite de cette discussion. Gilles Le Proust, à Alonne, est-ce que vous travaillez avec des éducateurs de rue? Est-ce que le département de la Sarthe les finance toujours? Car de nombreux départements ont sacrément baissé leurs subventions.
Oui, nous avons des éducateurs de rue. Le conseil départemental continue à le financer en lien avec la ville d'Alonne. Ils font d'ailleurs un travail remarquable, comme d'ailleurs les animateurs du service jeunesse de la ville. Et ça pose une question, vous parliez du désengagement de certains conseils départementaux, c'est que je pense que dans cette période complexe, nous avons besoin de services publics nationaux et locaux qui aient les moyens humains de pouvoir déployer leur politique, peut-être. Voilà, c'est vrai d'éducation nationale, c'est vrai des éducateurs de rue, c'est vrai des acteurs de mouvements sportifs et culturels. Je crois qu'il y a un véritable enjeu parce que au-delà du constat, il faut essayer de, je pense, travailler à des réponses parce que quand on est élu ou quand on est mouvement associatif, on veut franchir des étapes. Je pense que là, il y a un véritable enjeu qui nous est posé.
Je pense qu'avec l'éducation nationale, on est au cœur du sujet. Est-ce que vous, à Alonne, vous avez vu arriver des bénévoles de cette réserve citoyenne qui a été constituée après les attentats de Charlie Hebdo? Est-ce que vous avez commencé à en voir arriver dans les écoles?
Non, concrètement, non. Non, 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 non. Non, on a dans des Alonnais, avec les associations, des actions, effectivement, en lien avec les écoles qui permettent de travailler et de faire de l'éducatif, mais nous n'avons pas eu d'arrivée de ce point de vue-là.
Ceci dit, vous aviez déjà, j'imagine, du mal à trouver des intervenants dans le cadre des activités périscolaires de la réforme de Vincent Peillon. D'ailleurs, quels ateliers sont proposés aux enfants d'Alonne, puisqu'on parle toujours de l'importance de la culture et autres pour ces enfants?
Alors, effectivement, sur les fameux TAP, il y a un coût pour les collectivités. D'ailleurs, Ville et Banlieue demande que dans la loi de finances 2017, ce coût soit pris à 100% par l'État. Mais par exemple, nous avons un travail entrepris avec Zaya Zouani, qui est une chef d'orchestre, l'orchestre Divertimento, qui intervient dans les écoles pour permettre justement d'ouvrir la musique classique au plus grand nombre. Parce que, je l'ai dit, moi j'y attache beaucoup d'importance, il faut donner de l'ambition dans ce qu'on fait dans nos quartiers. C'est ça qui nous permet de relever les défis.
Emza El-Kostiti, est-ce qu'on a repensé la culture dans les quartiers, loin du modèle des années 90 que vous avez connu, qui ont vu le ministère de la Ville injecter énormément d'argent à l'époque dans des œuvres d'art contemporains en plein milieu des cités qui, a priori, n'intéressaient pas grand monde? On appelait ça le développement social des quartiers. Est-ce qu'on a repensé ça?
Alors oui, dans le Nord, que ce soit à Roubaix, dans la métropole lilloise ou au niveau de la région, il y a un vrai travail de culture qui est fait. Je salue le travail de la culture et de l'adjoint à la culture de l'équipe et l'équipe complète de Monsieur le Maire, parce que franchement, la culture, il nous restera peut-être plus que ça. Donc à Roubaix, il y a le musée de la piscine qui est gratuit pour les Roubaisiens. Il y a un certain nombre d'activités. Il y a des associations comme le Camion qui font un vrai travail culturel. Il y a l'agriculture urbaine. Il y a l'association Damas qui fait un certain nombre de choses. Il y a le Louvre-Lens. J'ai eu l'occasion d'y aller. Et effectivement, quand on permet à des gamins du bassin minier d'être guides durant une journée pour présenter des œuvres au Louvre-Lens, moi je me dis, ouais, quand même, ça a de la gueule. Et le gamin, quand il rentre chez lui, il se dit, j'ai un statut, j'existe culturellement, socialement, je suis quelqu'un. Et ça peut paraître une banalité, mais dire je suis quelqu'un, ça fait écho à ceux qui disent je suis personne et qui peuvent sombrer dans le chaos. Et les jeunes qui sont dans la radicalisation, ils disent beaucoup de choses sur notre époque. C'est la radicalisation, les djihadistes, les attentats suicides, c'est le suicide du 21e siècle. Spectaculaire, médiatisé, narcissique. Et quelque part, ça dit des choses sur les maux de notre société. C'est aujourd'hui, le jeune, il exprime le fait de faire un suicide à l'occidental spectaculaire. Et la culture, c'est une des réponses très très fortes pour pouvoir faire société. Je répète cette expression, mais elle me tient à cœur, autour de la culture. La culture, c'est super important.
Alors, Stéphane Rosès, invité ici même la semaine dernière à parler du discours politique en période d'attentat, s'inquiétait du manque de vision de nos derniers chefs d'État, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le terrorisme est présent au Moyen-Orient, on sait la déstructuration du monde, on sait qu'alors que le monde s'homogénéise, on assiste à une montée tout à la fois du radicalisme et du nationalisme, mais personne à la tête de l'État n'est capable de nous l'expliquer. Est-ce que c'est à l'école de le faire? Est-ce qu'il faut des cours de géopolitique? Est-ce qu'il faut des cours pour adultes et pour jeunes adultes pour expliquer tout ça?
Alors oui, c'est indispensable. Je suis formateur et j'interviens auprès de publics adultes. Et quand je vois la place qu'occupe la théorie du complot, par exemple, dans la simplification des analyses, je suis vraiment affligé et triste. Donc bien entendu, il y a un gros travail d'éducation populaire pour expliquer qu'un pays, c'est une civilisation, c'est une histoire, que ceux qui pensent qu'en Syrie, il y a les gentils et les méchants se trompent parce que c'est un panier de crabes extrêmement complexe dans lequel on vient expliquer sur les réseaux sociaux que effectivement les djihadistes viennent rejoindre une cause. Mais il y a un gros travail de la géopolitique. Il faut une approche transversale et je vous rejoins totalement. L'école, mais pas seulement, parce que l'école, en plus de reproduire les inégalités, elle a beaucoup de choses à faire, l'école. Et j'ai envie de dire, tous les acteurs doivent s'engager dans ce sens.
Anne-Marie Fauvet, vous savez si c'est quelque chose qui commence à se mettre en place ou est-ce que vous l'appelez de vos voeux?
Alors oui, alors moi je rejoins complètement votre invité, effectivement, et c'est ce qu'on voit dans les évolutions au niveau des éducateurs de rue. On voit bien, complètement d'accord, qu'il faut remettre du sens, réexpliquer les choses, ce qui signifie aussi que les adultes, éducateurs et autres qui sont autour des jeunes doivent eux-mêmes reprendre une dimension politique pour pouvoir répondre à ces jeunes. Je pense que c'est extrêmement important de leur répondre. Et effectivement, on a un gros travail à reprendre sur comment on développe l'esprit critique, la question du dialogue et comment on leur permet d'avoir complètement une identité citoyenne à ces jeunes. La seule chose que je voudrais quand même rajouter par rapport à votre débat sur la question de la radicalisation, on est plusieurs équipes de prévention spécialisées à s'être engagées dans le travail auprès des jeunes qui sont dans des processus de radicalisation. Il faut quand même préciser que ce ne sont pas uniquement des jeunes des quartiers sensibles qui sont pris dans ces processus de radicalisation. C'est important de le dire justement parce que il faudrait pas qu'on ait cette image-là.
Leur point commun, c'est qu'ils sont jeunes, peut-être, alors.
Alors, qu'ils sont
jeunes. C'est une génération.
Voilà. Et en même temps, quand on dit jeune, ça commence à 16 ans, c'est 16, 35, 35 ans, hein, quand même. Et ce qu'on constate quand même beaucoup, pour ceux qui travaillons auprès de ce public, c'est qu'en fait, ce sont pas forcément des jeunes issus des quartiers défavorisés, ce sont souvent majoritairement des jeunes qui sont convertis et qui n'ont pas de culture religieuse familiale, on va dire. Donc, et quand on travaille avec ces jeunes pour justement les aider à sortir de ce processus de radicalisation, ce qu'on constate, c'est que chacun a vraiment, ce qui fait que le jeune a basculé, c'est vraiment un événement dans sa vie et qui est très très spécifique. On peut pas en faire de généralité. Et ce qu'on constate, c'est quand on travaille avec eux, on parle assez peu de religion, parce que c'est pas tant de la religion dont il s'agit, c'est bien d'autre chose.
Il y a certains cas aussi qui relèvent, alors au moins pour partie, de la psychiatrie, à minima de la psychopathologie ou la pédopsychiatrie, enfin je ne sais pas, quand ils sont jeunes, de l'adolescence. C'est le cas d'Amel Kemish, d'ailleurs, à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a longtemps, un temps, été suivi. Gilles Le Proust, la présence, les moyens de ces centres dans la Sarthe ou autour de vous, à Allonne, vous savez s'ils sont en mesure de fonctionner correctement ?
Ben, ça pose la question des moyens du service public et le nombre d'établissements et la formation de celles et ceux qui s'en occupent. Sur la dimension mieux comprendre dans quel monde nous vivons, ça me semble indispensable. Alors il y a tout le travail. Je pense qu'on est dans une période où faut refaire de la politique avec un grand P de manière importante. Faut discuter, faut débattre, faut avoir mener la contradiction. Et puis je vous remercie de cette émission d'ailleurs parce que je pense que les médias ont un rôle à jouer parce que on a trop de médias où faut faire tout de suite l'événement, c'est pas l'appel à l'intelligence, à la réflexion. Nous avons besoin de prendre le temps, d'avoir le temps de réfléchir, d'apporter des réponses, d'écouter tout simplement, mais au plus près du lieu de vie des habitants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et je pense que là, il y a aussi un travail qui est entamé dans beaucoup d'endroits, mais qu'il faut amplifier, et pour cela, il faut aussi les moyens pour le mener.
Hamza El Kossity.
Il y a vraiment un débat entre l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islam. Je crois que la thèse d'Olivier Roy commence à avoir de plus en plus de succès, où il explique qu'il y a d'abord un processus de radicalisation et qu'après il y a un vernis religieux. Je rejoins tout à fait ce que dit cette dame. Et je pense qu'il faut vraiment mettre des moyens dans l'éducation populaire. On va se mordre les doigts le jour où il n'y aura plus le maillage des territoires au niveau de l'éducation populaire. Et je rêve que dans mon pays, la France, qui est un grand pays, qu'on mette les mêmes moyens dans la culture et dans la santé mentale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Il y a beaucoup de gens qui vont pas bien et qui sont des bombes à retardement. Quand je vois les moyens qu'on met dans l'armement et dans la défense, j'aimerais bien, sans démagogie, sans utopie, qu'on mette les mêmes moyens dans l'éducation populaire et sur la porte d'entrée, santé mentale. Et c'est des compétences des régions. Donc j'appelle les 13 régions de France à faire un appel à projet sur cette question-là, sur tous ces jeunes et moins jeunes ou autres qui ne vont pas bien, parce que notre société, elle produit aussi des gens qui ne vont pas bien et qui sont des bombes à retardement.
Hamza El Kossity, quand on parle du sursaut de la société civile, on peut inclure la cellule familiale. Vous avez dans votre groupe de parole vu arriver bien sûr des mères, des sœurs, des frères je me réfère à une petite planche de dessin que vous m'avez fait parvenir, qui sera publiée un jour, vous nous en parlerez. Une dame a dit dans ce groupe de parole.
Est-ce qu'on peut changer son prénom, s'il vous plaît?
Non, je donne pas son prénom. Une dame a dit, moi j'ai deux sœurs et un frère qui sont entrés dans une secte fondamentaliste. Elle a employé ces mots et je ne sais pas quoi faire.
Et je vous remercie, je vous ai un peu brusqué parce que c'est une responsabilité que d'échanger une parole qui a été dite dans un moment où les gens se sont libérés. C'est pas toujours évident pour la famille d'assurer. Oui, donc effectivement, il y a une dame qui est venue, qui a expliqué, ça lui a fait du bien de parler et d'écouter. Oui, il y a des gens qui ne se convertissent pas à l'islam, il y a des gens qui se convertissent à des sectes et à des dérives sectaires liées à l'islam. Et donc, elle est venue expliquer comment est-ce qu'à un moment, le lien familial est tout simplement rompu. Et je crois que ce qui fait la différence, il faut le rappeler, entre une secte et une religion, c'est la possibilité, dans une religion, d'y entrer et d'y sortir en gardant le lien social. Et que dans vos familles, si vous voyez quelqu'un qui coupe le lien social, vous pouvez juger que c'est un début de dérive sectaire. Ça, les auditeurs, ça peut être un outil didactique très simple. Quand on coupe le lien social, et quand on est dans une pratique qui coupe les relations sociales, on est dans un début de dérive sectaire.
Alors vous étiez d'accord tous les trois tout à l'heure pour dire qu'il fallait décaler le regard de la banlieue ou des quartiers populaires. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec Sarah Roubateau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en lien depuis le Canada, en liaison depuis le Canada. Alors comment vous présentez Sarah Roubateau? Je suis française, je n'ai pas 30 ans, Paris c'est ma ville, j'ai des origines, comme on dit, maghrébines, je suis républicaine et transculturelle. C'est ainsi que vous introduisez votre lettre à ma génération que vous avez postée sur Mediapart le 20 novembre 2015 sous le titre « Moi, je n'irai pas qu'en terrasse ». C'est une lettre qui a été relayée, traduite dans la presse du monde entier. Ce mot-clé « Je suis en terrasse » qui a fleuri partout sur les réseaux sociaux après le 13 novembre et qui a été présenté comme une initiative citoyenne, un sursaut, c'était quoi pour vous? C'était une posture?
C'était un symbole nécessaire, mais c'est vrai que je réagissais en fait dans cette lettre à deux choses, en fait, au discours politique et médiatique qui disait qu'on avait été attaqué pour notre liberté, notre mixité, notre légèreté. Et il me semblait que ni Paris ni la France n'avaient le monopole de tous ces adjectifs. Et bien sûr, tous en terrasse, disons que je voyais circuler les photos de gens attablés avec un verre de vin à la main. Et comme le disait un de vos invités, on est aussi dans une génération où résister ou réagir, c'est partager, faire un clic. Et je trouvais que si on voulait être à la hauteur du symbole qu'on prétendait être, il fallait trouver autre chose. Et donc c'était surtout par rapport à à ce mode de réaction en fait qui a pris une ampleur énorme, que je réagissais. Et je sais que en France on accorde une importance énorme au symbole qui sans doute est nécessaire, mais souvent, on n'a pas une vision très pragmatique et donc les marches, les stylos en l'air, les bougies, c'est bien et c'est nécessaire, j'en suis bien consciente face au choc, mais il y a aussi autre chose à faire et toutes ces initiatives dans le quotidien nous sortent de notre zone de confort. Donc c'était à ça que je réagissais.
Et donc votre résistance à vous, c'est quoi ce que vous avez pu mettre en application depuis ?
Moi personnellement, par exemple, justement, j'organise des soirées de lecture directe et de rencontres directes autour du livre Lettres à ma génération avec des gens, des citoyens de qui habitent un petit peu partout en France, et j'essaye de le faire de sorte que ce sont les citoyens eux-mêmes, les gens qui vont organiser ça. Mais c'est sûr que je pense que dans un premier temps, il faut sans doute éteindre le poste, en effet, éteindre le bas. Bavardage médiatico-politique et pour avoir en fait d'autres yeux que ceux qui vont se gargariser du spectacle de l'horreur et ne pas se contenter de l'image que les médias projettent de notre génération et de notre société, parce que c'est vrai que c'est quand on se contente de l'image et des discours qu'on entend, quand on se contente de ça pour penser notre société, c'est là que naissent tous les stigmates et les préjugés. C'est quand on ne sort pas pour aller voir ce qu'est notre société réellement.
Sarah Roubateau, quelle est la nature du débat que vous avez suscité ? Ce que vous avez retenu de toutes les réactions que vous avez reçues, les réponses à votre lettre ?
Les gens me disaient que ils avaient aussi ressenti un malaise par rapport à Tous en terrasse, et ils me disaient surtout, les gens disaient, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment le faire. Alors est-ce que c'est dans mon quartier, et ils me disaient, ta lettre m'a mis le doigt sur quelque chose que je ressentais mais que je n'arrivais pas à formuler. Donc c'était beaucoup des gens qui me disaient ça. Et puis sinon, la plupart des gens simplement, oui, disaient que quelque chose avait été exprimé, qu'ils ressentaient depuis longtemps. Mais je pense que tout le monde est prêt à, sait qu'il faut faire autre chose en fait. Et on sait que la France est un terreau fertile pour que pousse le djihadisme, et qu'il y a donc, certes, il y a des choses du côté de la politique extérieure, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de mainmise là-dessus. Mais il y a toutes les causes sociales qui font que notre société n'a pas l'air de donner à beaucoup de gens un idéal, et ils vont le chercher dans le djihadisme.
Alors pour conclure, Gilles Leproust et Hamza El-Khostiti, quand vous entendez des gens qui vous disent, notamment dans votre groupe de parole, je ne sais pas quoi faire, c'est notamment ce qu'on a répondu à Sarah Roubateau, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Moi, je rejoins ce que dit Sarah, ouais. Le peu que vous pouvez faire, je crois que c'est une phrase de Gandhi, le peu que vous pouvez faire, faites-le. Il y a toujours un milliard de raisons de ne pas faire les choses, il faut en trouver juste une pour faire un potager, faire une œuvre artistique, écrire un livre, écrire un article, écouter France Culture, parler à son voisin, je veux dire, rejoindre une action d'éducation populaire, toute petite action mise bout à bout avec les autres actions, c'est ce qui fait la sensibilité des territoires et c'est ce qui fait la France. Les gens n'en sont pas conscients. Et même la terrasse sur le café, je prends quand même s'il peut y avoir un peu de parisianisme et d'embourgeoisement des fois, je le prends aussi ça, et puis faites le partager, mais ça ne peut pas être que ça.
Merci Sarah Roubateau. En tout cas, toutes les lettres que vous avez écrites à l'adresse de votre génération, comme vous dites, ont été publiées récemment chez Michel Lafon. On met les références sur la page d'Une semaine en France sur le site de France Culture, ainsi que le message que vous avez rédigé après l'attentat de Nice. Vous l'aviez titré « Je n'aurai pas ces yeux-là ». Et ça aussi, c'est sans doute un acte de résistance, un acte citoyen. Un grand merci à vous d'être venu jusqu'à Paris. Gilles Leproust, maire d'Allonne et président de l'association...
Secrétaire général,
de l'association Ville et Banlieue. Merci à vous, Hamza El-Khostiti. Vous allez faire de tous ces témoignages un livre.
Voilà, c'est un projet, on doit en parler encore avec le groupe. C'est encore
c'est
une fois une petite action.
C'est évidemment un projet
action.
Collectif et c'est voilà. Une petite action. Merci Anne-Marie Fauvet d'avoir été avec nous par téléphone. Merci donc à vous tous de nous avoir recensé les initiatives citoyennes et puis de les avoir, je l'espère, encouragées. Dans un instant, la seconde partie d'Une semaine en France. Bientôt des nuits sans train.
Je prends le train des insomnies et plus rien ne m'arrête. De l'aube jusqu'à l'aurore. trajet à très grande ivresse. Mes nuits sont plus belles que vos jours. À bord du Midnight Express, couper l'espace, fendre l'air. Un voyage pour trouble de fête. Je suis l'homme à l'eau de vie, abusé par l'ordinaire. Les veines pleines d'envie, je pourrais bien boire la mer. Au premier coup de sifflet, refaire le monde à l'envers. Le train de nuit, jusqu'au bout de la nuit. Je sais que plus rien ne m'arrête. Du soleil à minuit, je sais que plus rien ne m'arrête. Jusqu'au bout de la nuit, tant que brille la lunette. Une dernière cigarette. Une place dans le train des minuit. Elle démarre ma comète. Étoile filante dans la nuit. La lune est ronde sur nos têtes. Dans le wagon feu de paille se retrouvent les déclassés. On aime à rester veilleurs pour vivre nos rêves éveillés. Au comptoir des exilés, d'un petit peuple en délire. Au milieu des chants et des rires, dans une nuit sans sommeil. Goûter la part des anges, se sentir pousser des ailes. Le train de nuit, jusqu'au bout de la nuit. Je sais que plus rien ne m'arrête. Du soleil à minuit, je sais que plus rien ne m'arrête. Jusqu'au bout de la nuit, tant que brille la limette. Une dernière cigarette, oh divine. Une dernière cigarette, oh divine. Le sourire de l'ivresse, un sourire. Jusqu'au bout de la nuit, je sais que plus rien ne m'arrête. Du soleil à minuit, je sais que plus rien ne m'arrête. Jusqu'au bout de la nuit, à l'ombre des silhouettes, de l'inconnu dans les yeux.
Merzine, groupe de rock français originaire de Landerneau en Bretagne, chante « Train de nuit ». Je prends le train des insomnies et plus rien ne m'arrête. De l'aube jusqu'à l'aurore, trajet à très grande ivresse. Mes nuits sont plus belles que vos jours, à bord du Midnight Express. Bonjour Elien Prévost.
Bonjour Elien.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, les trains de nuit ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, a confirmé la semaine dernière l'ouverture à la concurrence de 6 lignes de nuit sur 8. Vous êtes Aurélien Prévost, professeur d'histoire à Créteil. Ferrovipat, c'est comme ça qu'on appelle les
oui,
amateurs.
Oui, ou ferrovifil,
de...
comme vous voulez.
Ouais. Pat, oui, c'est vrai que Pat, ça fait un peu
psychopathe, oui.
Oui, bon, voilà, Ferrovipat, vous avez publié un livre sur les trains pendant la Seconde Guerre mondiale.
La première
guerre mondiale. Alors rendons à ces trains de nuit leur histoire et leur mythologie. À l'origine, Aurélien Prévost, qui a décidé de faire circuler des trains la nuit?
En fait, le train de nuit, il date des débuts du chemin de fer, puisque à l'époque, en 1850, les trains roulent très lentement. Donc pour railler sur des longues distances, il faut faire circuler les trains longtemps. Donc ils circulent de nuit. Si... Parmi nos auditeurs, ceux qui ont souvenir d'avoir lu La Comtesse de Ségur pourront en trouver un exemple dans Jean qui grogne et Jean qui rit, puisque les deux enfants quittent Auray le soir et arrivent à Paris à 5h du matin. Alors eux, ils voyagent assis dans des voitures de troisième classe, c'est-à-dire que au confort des plus rudimentaires, c'est-à-dire des banquettes en bois très dures. Mais il faut attendre 1863-1865 aux États-Unis avec George Mortimer Pullman pour avoir l'invention de la voiture-lit. Alors Pullman a eu cette idée parce qu'il vendait les pièces de son frère qui était un ébéniste à travers tous les États-Unis. Et donc il a passé des nuits lui aussi sur les banquettes sympathique des chemins de fer des États-Unis. Et donc, lorsqu'il a fait fortune, il a eu l'idée de développer le concept des voitures-lits qui n'a absolument pas de succès au départ. Et il va profiter de la mort du président des États-Unis, donc Lincoln, et il va proposer sa voiture pour transporter le cercueil. Il n'en avait qu'une. Et ça va être le début du succès. On est en 1865. À la même époque, vous avez un Belge qui a été obligé de un Belge qui est héritier d'une famille de la haute bourgeoisie, qui possède des tas d'usines, qui a été obligé de quitter sa Belgique natale parce que bon, il avait fricoté et puis bon, il fallait mieux partir pour éviter le scandale. Et donc, il se retrouve aux États-Unis et il en profite pour visiter les États-Unis en train et il découvre le concept des voitures-lits. Et il se dit que c'est quelque chose qui peut être adapté pour le chemin de fer européen. Donc, quand il revient en Belgique, il se lance là-dedans et le concept arrive en France en 1873. George Nigel Makers, puisque c'est de lui dont il s'agit, est le fondateur de la compagnie internationale des wagons-lits qui va durer jusqu'au milieu du XXe siècle.
Et alors, qui sont au départ ceux qui prennent ces wagons-lits, les usagers?
Les usagers, c'est des personnes qui sont évidemment extrêmement riches, puisque on a eu tendance à surnommer les trains de la compagnie internationale des wagons-lits comme étant des hôtels, des palaces sur rail. Donc ça va être réservé à une élite, c'est-à-dire à ceux qui payent vraiment extrêmement cher. Et on a quand même à la fin du 19e siècle, en 1897, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, une des composantes qui va former ensuite la SNCF, qui va inventer la voiture couchette telle qu'on a connue après, pour, je cite, offrir une voiture à des tarifs peu élevés, tout en relatif, et toujours réservé à la première classe, aux voyageurs de première classe.
Donc là, le train de nuit devient populaire, on n'est plus dans le train bleu ou l'Orient Express,
si,
non?
Si, on reste encore. Oui, oui, pour avoir du populaire, il faut attendre l'entre-deux-guerres, les années 30, pour avoir un début de popularisation, mais réservé essentiellement à la seconde classe. Donc toujours pas la troisième qui existait encore à l'époque.
L'ambiance dans le train de nuit à l'époque, ça devait être des gens qui partaient à la mer parfois pour la première fois, si on s'approche du Front populaire, des soldats en permission, l'armée a contribué à dessiner les chemins de fer français.
Oui, l'armée a imposé un certain nombre de lignes de chemin de fer pour desservir soit les futures zones de front qui avaient été prévues, soit évidemment les camps militaires. Mais les permissionnaires voyagent dans des voitures à banquettes, pas du tout des couchettes. Ouais. Et pendant la guerre, de toute façon, les soldats voyagent dans des couverts à bestiaux. Hein. Donc le confort est encore plus rudimentaire.
C'était quand même une époque où il était peut-être plus sûr de voyager la nuit sur des rails que sur les routes.
Ah bien sûr, on risquait beaucoup moins de se faire assassiner, racketter ou autre, et sans compter évidemment que sur les routes, il pouvait arriver des accidents, comme aujourd'hui.
Alors sur les 8 lignes de nuit qui subsistaient, seules 2 sont maintenues, Paris-Briançon et Paris-Rodez-La Tour de Carole. 6 disparaissent, peut-être qu'on peut les nommer, Paris-Savoie, Paris-Toulouse-Rodez-Albi, Luxembourg-Nice jusqu'à Portbou en Espagne, Strasbourg-Nice-Portbou, et puis 2 autres ne bénéficient que d'un court sursis, Paris-Tarbandaille et Paris-Nice. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont il a été décidé de la survie ou de la mort de ces lignes de train? Pourquoi est-ce qu'on aurait laissé la vie sauve à Paris-Briançon mais pas à Paris-Savoie, par exemple?
C'est très simple. Paris-Briançon, il y a une partie du trajet, le trajet terminal qui mène à Briançon, qui se fait sur une ligne à voie unique, qui n'est pas électrifiée. Par conséquent, on ne peut pas faire circuler de TGV sur cette ligne. C'est pas possible. Donc, il y a encore une raison valable de faire circuler un train de nuit sur cette ligne, tandis que sur d'autres, on peut le remplacer par des liaisons TGV qui vont beaucoup plus vite, puisque le train de nuit a une liaison extrêmement détendue, il circule très lentement.
Alors, séquence nostalgie avec notre illustration régionale à laquelle on tient dans Une semaine en France. Bonjour Jean-Paul Metz.
Oui, bonjour.
Pour le journal L'Est Républicain dont vous êtes correspondant, vous avez pris le dernier train de nuit Nancy-Portbou en Espagne, c'était le 25 juin dernier. Une ligne que vous connaissez bien, parce que ce train de nuit, vous le prenez depuis que vous êtes tout petit.
Donc je prenais ce train tout simplement pour aller en vacances en Espagne, sur la Costa Brava, et c'était le moyen le plus pratique, puisque je n'avais pas de voiture à l'époque, et j'avais trouvé un endroit très sympathique pour passer les vacances. J'y vais tous les ans depuis à peu près 40 ans, 45 ans.
Combien de temps vous mettiez pour rallier l'Espagne ?
Suivant les années hein, et les horaires, donc on mettait de 11h à 11h15.
Racontez-nous la vie dans ces compartiments, les souvenirs que vous en avez.
On s'installe, tout simplement. On dit bonjour, bonsoir. Et puis, on s'installe dans sa couchette et on attend le lendemain. Moi, je connaissais bien la ligne, je me réveillais lors de passage dans certaines gares, même sans que le train ne s'y arrête. Et je me laissais bercer au fil des rails.
Ça fait un bruit particulier, le train de nuit, un son particulier.
Un son particulier, oui, mais ça dépend des rails. Hein. Donc, les barres longues où on glisse, les barres plus courtes où ça secoue un peu.
Ça veut dire qu'en fermant les yeux, vous saviez à peu près où vous étiez rien qu'en écoutant le son du train.
Exactement. Rien qu'en écoutant les aiguillages ou le ralentissement du train, par exemple au passage de la gare de Lyon-Pardieu ou Lyon-Perrache, le train ralentissait. Et bon, voilà, on est à Lyon. Et ainsi de suite. Et le lendemain matin, c'était quand même une pure merveille de passer devant l'étang de Thau. On avait l'impression de naviguer en haute mer. Mmh. Et à partir de Perpignan, on abordait le passage escarpé du train, longeant les rochers de la Costa Brava, quoi.
Alors Jean-Paul Metz, le train qui vous conduisait jusqu'en Espagne a donc été supprimé, ce train de nuit. Comment est-ce que vous irez désormais à Portbou, où sans doute vous avez des attaches, puisque vous y alliez chaque année ?
Il n'y a plus d'indicateur des chemins de fer sur papier, mais l'informatique m'apprend qu'il faut passer par Paris. Il n'y a pas d'autre solution, passer par Paris, donc la gare de l'Est, puis le métro, changer à Bastille, prendre la gare de Lyon, et ensuite descendre vers Perpignan, changer à Perpignan, aller à Portbou, continuer vers Gérone.
Donc c'est possible.
Sans passer par Portbou. C'est possible, on gagne quoi, 2 heures.
Ah, vous gagnez 2 heures ou vous perdez 2 heures?
Oui, on gagne 2 heures en passant par les GV via Paris, mais 2 heures, on perd la journée.
Merci.
Alors que le train de nuit, on a une journée de plus là-bas, en vacances.
Merci Jean-Paul Metz, correspondant pour le journal L'Est Républicain et ex-usager du train de nuit Nancy-Portbou. Aurélien Prévost, vous aussi, vous avez déjà pris le train de nuit?
Oui, quand j'étais petit avec mes parents pour rejoindre la Côte d'Azur ou ensuite pour aller en Italie à Rome et puis plus dernièrement pour aller à Briançon il y a quelques années.
Primordial, le choix de la couchette. Forcément.
Oui, puisque dans un compartiment, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous mettez en bas, ce qui est la position a priori la meilleure, puisque vous pouvez sortir librement pour effectuer des besoins pressants pendant la nuit, par exemple. Vous avez, mais par contre, vous avez peu d'espace. Vous avez le choix de la couchette haute, qui est difficile d'accès, mais qui a plus d'espace en hauteur. Vous pouvez vous asseoir sur votre couchette, mais évidemment, la chaleur montant, elle est la plus chaude. Et vous avez la couchette redoutée, qui est celle du milieu.
Ah, mais c'est un vrai calcul, en fait.
Voilà, c'est un calcul, comme le choix du compartiment dans la voiture aussi, puisqu'il vaut mieux être au milieu de la voiture que sur les bogies, puisque le confort est un peu meilleur, on a moins les trépidations, on a moins le bruit, le tac-à-tac du train.
Le tac-à-tac-à-tac-à-tac que certains adorent, qui leur fait penser au boléro de Ravel, il paraît, nous disait Laurent Kupferman, mais d'autres le détestent, ce bruit-là. C'est dû à quoi ? C'est du matériel qu'on ne trouve plus dans les autres trains ? L'âge du matériel qui...
C'est-à-dire que les voitures couchées ont plusieurs dizaines d'années et sont en fin de vie. Donc évidemment, ils ont une insonorisation qui était déjà moins poussée à l'époque et qui a vieilli. Donc forcément, on entend plus le bruit de roulement que sur un TGV par exemple. Sans compter que sur une ligne TGV, les rails sont beaucoup plus longs que sur les lignes classiques.
Mais paradoxalement, c'est quand le train s'arrête qu'on se réveille en se demandant où on est, parce qu'il y a plus rituel d'un employé du train qui tapait sur les boîtes d'essieux pour voir s'il y avait de l'huile. Donc on ne sait pas où on est quand le train s'arrête la nuit.
Voilà, évidemment, le bruit s'arrête, donc on se réveille. Éventuellement, il y a des passagers qui rentrent, donc ils vont faire un peu de bruit pour chercher leur compartiment, qui vont se tromper de compartiment. Enfin, on peut avoir plein plein de choses. Et évidemment, le matin, par contre, on va entendre éventuellement, enfin, on entendait avant le chef de gare qui criait le nom de la station et avec le nombre de minutes d'arrêt.
Alors, Aurélien Prévost, qui sont ceux qui prennent encore les trains de nuit ?
Bien, c'est essentiellement des personnes, comme le disait l'intervenant tout à l'heure, qui souhaitent ne pas perdre une journée pour des trajets longs, donc qui souhaitent arriver frais et dispo. Dans tous ceux que je connais qui prenaient régulièrement les trains de nuit, il y a essentiellement des personnes qui viennent, qui habitent par exemple à Lille et qui vont à Marseille pour une série de conférences, pour un comité d'entreprise ou pour quelque chose, et qui ont besoin d'être là le matin relativement tôt et qui repartent le soir. Le train de nuit répondait à cette attente.
On veut pas perdre une journée, mais on n'est pas non plus à la minute près. Hein. Le train de nuit peut souffrir quelques arrêts prolongés.
Quand il y avait un train de nuit entre Paris et Nantes, le train de nuit quittait Paris vers 22h et arrivait à Nantes à 2h du matin. Et là, par contre, on laissait le train, quand même, la SNCF avait conscience qu'à 2h du matin, les gens n'avaient pas forcément envie de quitter le train, et donc on ne réveillait les voyageurs qu'à 6h. Mais ça veut dire qu'il y avait largement de temps, la marche était vraiment très détendue, et au changement d'heure, les horaires étaient rigoureusement les mêmes, qu'il y ait une heure de plus ou une heure de moins.
Vous nous avez dit qu'il y était ceux qui prenaient encore le train de nuit, mais ceux qui ne le prennent plus, puisque l'exploitation aurait chuté de 20% selon les chiffres du ministère des Transports.
C'est essentiellement la clientèle familiale qui désormais privilégie la voiture. La grande époque, l'âge d'or du train de nuit, c'est lié au départ en vacances pour les stations de sport d'hiver, puisque pour la première fois, les dates sont du samedi au samedi. Dans les années 60-70, il faut arriver le samedi, il faut repartir le samedi. Et les gens qui y vont pour les sports d'hiver n'ont pas envie de perdre du temps. Donc ils partent forcément le vendredi soir, ils arrivent le samedi dans la station, et ils peuvent skier dès le début de leur location, et pareil pour le retour. Donc le développement des sports d'hiver est directement lié au train de nuit, et le train de nuit est directement lié aux sports d'hiver, pour l'âge d'or.
Nous avons justement sur les sports d'hiver un interlocuteur qui connaît bien ce terrain-là. Bonjour à vous, Claude Brasier.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Rail Dauphiné Savoie-Léman qui s'est battue pour le maintien du Paris-Savoie. Alors le train conduisait, je crois, les passagers jusqu'à Saint-Gervais et Bourg-Saint-Maurice. C'est une ligne qui a été rayée de la carte ferroviaire. Il y a beaucoup de monde derrière vous, si vous pouviez peut-être un peu vous éloigner de la source du bruit.
Oui, tout à fait.
C'est une ligne qui a été rayée de la carte ferroviaire au prétexte qu'elle coûtait trop cher. Ça veut dire quoi? Elle tournait à vide, cette ligne de train?
Non, pas du tout. Et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur le fait qu'il y ait 20% de baisse de fréquentation, un des problèmes de l'exploitation des trains de nuit par la SNCF est aussi la qualité de l'exploitation. C'est-à-dire que des fois, il y a des travaux la nuit sur les voies ferrées et la SNCF, entre elles, c'est-à-dire entre SNCF Réseau et SNCF Mobilité, entre la SNCF qui exploite les voies ferrées et celle qui met les trains, il n'y a pas forcément une bonne communication. Et des fois, les trains sont mis à la vente quelques jours à l'avance. C'est-à-dire que il y a des gens à la SNCF qui ne savent pas si le train de nuit Paris-Saint-Gervais va pouvoir rouler, si la voie ferrée, par exemple, est fermée entre Dijon et Bourg-en-Bresse. Et du coup, il y a beaucoup de réservations qu'on n'a pas pu se faire, parce que si vous prenez vos vacances de sport d'hiver, vous n'allez pas réserver 5 jours à l'avance. Donc, il y a eu beaucoup de déperditions de ce côté-là. Par contre, nous, on constate en tant qu'association d'usagers que quand le train circule, il a encore d'excellentes fréquentations. Et les chiffres qui ont été donnés par le ministère sont très approximatifs. Et c'est pas du tout ce qu'on peut constater sur place.
Mais pourtant, Claude Brasier, vous ne devriez pas vous estimer malheureux puisqu'il est encore possible de rejoindre Chamonix depuis Paris de nuit. Et c'est en bus, ces fameux bus Macron, qui roule aussi de par chez vous, je crois.
Oui, alors, effectivement, et là, ça touche un point, mais qui est une constatation un peu nationale, c'est que, comme en France, les gouvernements successifs, celui-ci comme ceux d'avant, n'ont pas le courage de réformer la SNCF pour qu'elle soit plus rentable, plus productive, les gouvernements successifs n'ont pas osé ouvrir le chemin de fer à la concurrence de peur d'avoir des grèves, alors on préfère ne pas toucher à la SNCF, supprimer des trains, supprimer des dessertes, mais libéraliser les cars sur autoroute avec les fameux cars Macron. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plutôt que de se poser la question comment on peut mieux remplir le Paris-Saint-Gervais, notamment en faisant des packages touristiques, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont acheter leur voyage, ils vont sur des sites internet comme voyagessncf.com et puis vous achetez le transport, le forfait de ski, le logement. Et comme le train de nuit est absolument absent, Du coup, la SNCF a aucune démarche commerciale. Par contre, elle est beaucoup plus offensive quand il s'agit de mettre des cars sur autoroute. Et effectivement, vous avez raison, la SNCF vient de lancer un Ouibus Chamonix-Paris, alors que dans le même temps, elle supprime le train de nuit. Et je me permets d'ajouter que le train de
rapidement,
nuit...
Rapidement, s'il vous plaît.
Oui, c'est quand même un transport extrêmement intéressant parce que d'un coup, vous amenez 6 à 800 personnes sans aucune pollution atmosphérique. C'est-à-dire que c'est le seul transport de masse, le train de nuit, qui permet d'aller dans les fonds de vallée qui sont quand même assez pollués, sans pollution atmosphérique, parce que c'est des voies ferrées électrifiées. Et ça, c'est aussi un point important, c'est-à-dire que non seulement c'est économique, parce que vous économisez une nuit d'hôtel, ce qui a été dit avant, mais en plus c'est écologique.
Alors, est-ce que vous avez sur ces arguments essayé de convaincre la région Rhône-Alpes-Auvergne de reprendre la main sur la ligne ou des opérateurs privés, puisque c'est le projet, les trains n'ont pas été supprimés, mais ouverts à la concurrence?
Alors, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, mais qui était déjà pipé d'avance, parce que c'est pas en quelques mois que tout d'un coup un opérateur comme Transdev en France ou même Trenitalia, donc des opérateurs étrangers, peuvent mettre en place des locomotives, des wagons, trouver des contrôleurs, des mécanos. Donc tout ça, c'était complètement utopique. Et c'est clair que ça a débouché sur rien, puisque personne ne pouvait se positionner en 3 mois en se disant « je reprends des lignes qui traversent la France ». Donc nous, aujourd'hui, où on en est, c'est qu'on essaie
en deux mots.
De discuter oui, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier client de la SNCF en termes de TER, et on espère qu'elle puisse peser sur la SNCF pour trouver une solution intelligente pour qu'on puisse garder le Paris-Saint-Gervais et Paris-Bourg-Saint-Maurice.
Merci Claude Brasier, président de l'association Rail Dauphiné-Savoie-Léman. Aurélien Prévost, pour l'instant, aucun opérateur privé n'a manifesté d'intérêt pour l'une de ces lignes de nuit. Il y aurait sûrement plein de choses à imaginer sur un train de nuit, non ?
Il y a beaucoup d'opérateurs qui ont cherché à le faire ces 20 dernières années. Et si on regarde, pas simplement à la France, mais si on regarde en Europe, on constate que les principaux concurrents de la SNCF, dans leur pays d'origine, ont soit déjà abandonné les trains de nuit, soit sont en train de le faire, comme par exemple la Deutsche Bahn qui les raye. Il reste finalement que les chemins de fer russes qui les conservent pour par exemple un Paris-Moscou, parce que là évidemment il y a encore toute sa justification et parce que les distances en Russie sont beaucoup plus importantes.
Laurent Kupferman, vous me faisiez signe avant votre chronique.
Oui, on reparle d'une relance de l'Orient Express, est-ce que c'est un bruit, c'est une réalité?
L'Orient Express continue de fonctionner en train de luxe pour train touristique.
Mais occasionnellement ou de manière permanente?
De manière hebdomadaire, si mes souvenirs sont exacts.
Mais il paraît que même à bord de l'Orient Express, on était très mal, que c'était pas du tout confortable, non ?
C'est-à-dire que le côté luxueux était présent, mais ouais. Il y avait quand même des cabines qui étaient relativement petites et exiguës pour les wagons-lits.
Les trains auto-couchettes, ça a fait long feu ?
Aussi, donc les trains auto-couchettes pour nos auditeurs, c'est on met sa voiture dans le train, on passe sa nuit dans la couchette et au matin on récupère sa voiture à destination. Donc ça a très bien fonctionné jusque dans les années 80, mais ça a été relancé par la SNCF au début du 21e siècle, mais ça n'a pas marché à cause probablement des coûts trop élevés.
Aurélien Prévost, le sort de ces trains de nuit est-il précurseur de ce qui risque de se passer à moyen terme pour les intercités de jour ?
On ne peut pas en préjuger, puisque pour les intercités, il y a actuellement des discussions qui sont en cours avec justement les régions, avec l'exemple de la Normandie. Donc on ne peut pas savoir, mais il y a quand même une problématique qui reste la même. Les intercités sont réalisées avec du matériel remorqué de type corail, qui a globalement le même âge que les voitures couchettes.
Merci beaucoup, Aurélien Prévost, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, référence de votre livre.
Donc, les chemins de fer français dans la Première Guerre mondiale, aux éditions LR Press.
Et qu'on peut trouver sur Internet,
voilà,
notamment.
Sur le site lrmodélisme.com ou le site LR Press.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée.
Une semaine en France. Julie Gacon.
13h52 sur France Culture, la chronique de la République de l'essayiste Laurent Kupferman. Bonjour à vous.
Bonjour Julie.
Liberté de la presse, liberté des médias, ce qui fait écho à une certaine actualité et c'est votre sujet du jour.
Absolument. La liberté de la presse fait partie de ces droits tellement présents dans la vie courante que nos concitoyens ont parfois l'impression qu'ils ont toujours existé. Or, rien n'est moins faux. La liberté d'expression est un droit récent et qui n'a jamais cessé d'être menacé. Sous l'ancien régime, les choses sont simples. Toute expression est soumise à censure. Les publications sont prohibées, sauf si elles réussissent à passer sous les fourches codines. L'Église doit donner son imprimatur, puis c'est au tour de l'administration royale ou de la grande chancellerie d'apposer la mention « Nous n'avons rien trouvé de gênant ». Alors, c'est le sésame qui ouvre l'accès au public. Alors qu'on ne se méprenne pas, il y a eu des ouvrages considérables publiés sous l'Ancien Régime, de l'Esprit des Lois, de Montesquieu, en passant par les travaux de Diderot, de Voltaire, les chefs-d'œuvre de Molière ou de Racine. Mais leur diffusion est souvent complexe et toujours contrôlée, et on est souvent embastillé pour un écrit qui déplaît au trône ou à l'autel. Avec la Révolution française de 1789, le principe de liberté d'expression est totalement inversé. L'article 11 est sans équivoque. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Les restaurations monarchiques et impériales mettent du plomb dans l'aile de la liberté d'expression. Et c'est la Troisième République qui pose un régime stable. Le gouvernement de Jules Ferry porte à la Chambre la fameuse loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les tristement célèbres cautionnements, qui sont les importantes sommes versées à l'État pour avoir le droit de publier, sont supprimés. Et cette loi aussi met fin à un principe inique. Les femmes, jusqu'à la loi de 1881, avaient le droit de financer un journal, mais pas de le diriger. Cependant, gardons-nous de croire que cette liberté est absolue. Elle ne l'a jamais été. Un texte qui diffame, qui provoque à la haine, par exemple, est susceptible d'être frappé d'interdiction après sa publication. Bien sûr, il n'y a plus de censure en ce sens qu'il n'y a plus de contrôle a priori, en amont. Mais on encourt toujours un risque à dire tout et n'importe quoi. En réalité, c'est le juge qui est devenu le déontologue en matière de liberté d'expression. En fonction de quels critères? Alors c'est là le point intéressant. Prenons les deux républiques créées à la fin du XVIIIe siècle. Si aux États-Unis, il est loisible aujourd'hui encore de louanger tel tyran ou un dictateur, Hitler par exemple, il est devenu plus problématique de montrer une femme dévêtue. Nous avons tous en mémoire la censure du célèbre tableau de Courbet, L'origine du monde, ou la femme nue d'Alberto Giacometti. Autre différence, la presse anglo-saxonne a rechigné à montrer la une de Charlie Hebdo, créant de fait un délit de blasphème qui n'existe plus chez nous, notamment depuis la laïcisation des institutions. Dans la République française, donc, moins de puritanisme, mais une main plus ferme sur l'histoire. Alors, quelles valeurs faut-il protéger? Vaste débat. Mais dans un magnifique discours à la Chambre en 1848, Victor Hugo, alors qu'il est débattu de la liberté de la presse, s'écrit « J'ai toujours été, sous tous les régimes, pour la liberté et contre la compression. Pourquoi ? C'est que la liberté réglée par le droit produit l'ordre, et que la compression produit l'explosion. Voilà pourquoi je ne veux pas de la compression, et je veux de la liberté, on ne saurait mieux dire. »
Merci beaucoup Laurent Kupferman. On vous retrouve samedi prochain.
Absolument, avec plaisir.
Pour une nouvelle chronique de La République. Merci à vous. Une semaine en France a été préparée cette semaine par Céline Leclerc et Léa Pascoe. Réalisée par Milena Ellig, à la technique Jean Frédérics. Merci à tous et à vous pour votre écoute. Demain à la même heure, à 12h40, vous retrouverez Mélanie Chalandon et Xavier Martinet pour une semaine dans le monde. Et puis dès samedi prochain, c'est Antoine Dulster qui animera cette tranche, 12h40, 14h le samedi. Une semaine en France continue tout le mois d'août. Je vous souhaite pour ma part un très bel été et vous retrouve à la rentrée pour Sur la route avec Yvon Croisier chaque samedi après le journal de 18h.